transfigure la matière. Tandis que si Ésaü s'occupe du problème de Jacob, qui est le problème de l'esprit, alors Ésaü assassine l'esprit. Et si vous lisez, à tous les niveaux de lecture d'ailleurs, ce que la Torah dit de Jacob et d'Ésaü, alors ça affleure à tous les niveaux. Je vous donne un exemple. Jacob est celui qui est capable, alors que c'est l'homme d'étude, il est celui qui est capable de fabriquer l'élixir de vie. Quand Ésaü revient fatigué du champ, fatigué de vivre, Jacob est en train de préparer un plat de lentilles qui est un élixir de vie. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi à manger de cela, sinon je meurs. Vous vous rappelez de cela? Donc, tandis que lorsque Ésaü s'occupe du problème de Jacob, qui est celui de la vie de l'esprit, alors il y met la mort. La grande différence entre le judaïsme et le christianisme, un issu de Jacob et l'autre issu d'Ésaü, c'est que dans le judaïsme, le Dieu vivant est vivant, alors que dans le christianisme, il est mort. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, je dis ça en une phrase. Mais c'est une religion qui adore la mort. Qui adore la mort comme voie de salut. Alors que, avec les mots de la religion du Dieu vivant, du judaïsme. Eh bien, c'est à peu près dans le même ordre d'idée. Lorsque l'hébreu s'occupe du travail du grec, les sciences de la matière, il y collabore et il les transfigure. Lorsque le grec s'occupe du travail de l'hébreu, les sciences de l'esprit, alors il y met l'obscurité. Vous avez bien compris le problème. Voilà quel était l'enjeu de ce conflit. C'est asymétrique. Il y a un objet légitime du génie grec et un objet légitime du génie hébraïque, au niveau de la sagesse. Mais, encore une fois, c'est asymétrique et c'est ce conflit qui était l'enjeu. Alors, à l'échelle du clan Israël, les Maccabées ont triomphé, c'est irréversible, Hanouka, inauguration. À l'échelle de individuel, les Moumarim, c'est la blessure de Jacob. Et cette lutte est inachevée. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, c'est l'essentiel de ce qu'il fallait d'abord découvrir pour la compréhension du sujet. Alors j'avance. Veika, Inyana, Sheliavam. Alors l'essentiel du propos de la Grèce, c'est dans la force de sagesse qui lui est spécifique et nous avons vu de quoi il s'agit. J'ajoute quand même quelque chose qui est important et ça nous devons à Nietzsche surtout d'avoir renouvelé le sujet. C'est que le grec à l'origine, la conscience grecque à l'origine, a été capable des deux possibilités. De la même manière que nous pouvons voir que la conscience hébraïque est capable des deux possibilités. Mais il y a eu une option. En fin de compte, le génie grec a opté pour ce qu'est devenu la culture grecque. De la même manière que le génie hébraïque a opté pour ce qu'est devenu la culture hébraïque. Il y a dans la conscience grecque une expérience de tragique qui va avec le génie et surtout l'objet de ce génie. Parce que si le monde est absolument impersonnel, comme dit la mathématique, alors le fait pour une personne de vivre ce monde impersonnel est une tragédie absolue, sans aucune issue. C'est pourquoi la conscience grecque, qui est esthétique, est tragique. Alors que la conscience hébraïque, elle est optimiste. Il n'y a pas de tragédie dans la conscience hébraïque. Je crois que c'est un sujet pour les psychologues qui est très important. Lorsque un juif est en situation de tragédie, il y a quelque chose qui ne va pas dans son identité. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et là, je referme la parenthèse. Ça veut dire un juif est capable d'être tragique, mais l'option de l'identité juive, ça a été l'optimisme, l'espérance. Un grec est capable d'espérance, mais l'option de l'identité culturelle grecque a été la tragédie. Ceux qui s'intéressent à ces problèmes, je vous signale que, pour ma part en tout cas, ça m'a été beaucoup éclairé par ce que Nietzsche dit de la culture grecque. Vous référez donc à Nietzsche. Vacher Alken, Gamait Nagdut et Israël, et par conséquent, même son opposition à Israël, Haïtam et Benet Dafka, était orientée, dirigée en particulier, Klape Chochmata, chez le Knesset Israël, face contre à la sagesse propre à l'Assemblée d'Israël. Oui, Mila, et par conséquent, par le fait même, Gamanesul Purkan Yavan, même le miracle de la délivrance du temps de la Grèce, Mishtayehu, se relie, la Avodat Adlakat Amenorah, à un culte concernant l'illumination de la Menorah, Asher Avodazo Poelet, puisque cette œuvre de culte fonctionne, et Agdalata Ve'adrata Shekoa Chochmata, Shekneset Israël, se relie au fait de renforcer et agrandir la force de la sagesse de Knesset Israël. Bien, je passe au paragraphe suivant. Uvadai, chez Yesod Ze, Bemahut et Tandlou, chez Yavan Israël, Taon Biou. Il est évident que ceci demande à être expliqué. Chez Haré, Matsinou le Yavan Gzerot, chez Naim, Shum Shayachot et Minada Chorma. Puisqu'on trouve dans les décrets de la Grèce contre les Judéens, des Grecs contre les Judéens, des décrets qui n'avaient aucun lien avec le problème de la sagesse. Kegon, par exemple, Kol Betula Aniseet Tibai Leigamon Tchila. Toute vierge qui devait être mariée, juive, devait être prise d'abord par le gouverneur de la ville. Toute petite parenthèse, ces xérotes-là ont eu lieu assez souvent dans l'histoire. Il y a certaines communautés, on a encore le souvenir. Et la coutume dans certaines communautés pour les femmes de se raser la tête vient de là. C'est-à-dire le soir du mariage, le seigneur venait prendre la jeune mariée, alors elle se rasait la tête pour lui déplaire. Et c'est resté dans certaines communautés, comme vous le savez, où les femmes ont la tête complètement rasée, l'origine est là. Mais Yehoyan Rashi a donné une halakha, a expliqué une halakha à ce sujet. Le fait que les femmes doivent allumer la Hanouka, c'est une mitzvah qui, bien que ce soit une mitzvah à temps fixe, les femmes en sont obligées. Mitzvah, ça vient de ce que chez Afhen Hayu Beotones, que le miracle de Hanouka les a concernées. À Kavanaï, l'intention est Léota Gzera chez Anassi, chez Anashi Mitlou Mimena, de ce édit des Grecs dont les femmes ont été sauvées. Alors que lorsque les femmes allument la Hanouka, en fin de compte, il y a une kavana particulière pour elles, qui a été cette xéra des Grecs contre les femmes d'Israël. Et là, mais la source de la compréhension de notre sujet, c'est-à-dire le conflit des deux sagesses, se trouve dans une braïta, dans le traité de Ta'anit, Megidat Ta'anit, des Shmini Vetevet, le huitième jour du mois de Tevet. Ayayom Ta'anit est un jour de jeûne, Mipene Shevo Nirteva Torah Yavanit, parce que c'est le jour où la Torah était traduite en grec. Vechosher Yarad Haolam, et l'obscurité est descendue dans le monde. Nous avons étudié lundi ces deux sources que Yavan représente l'obscurité du monde, ça c'est la définition négative, que d'autre part il représente la beauté du monde, ça c'était la définition positive. Vous vous rappelez de ces deux sources-là, ça vous est familier. Alors, quand est-ce que cette obscurité est apparue? C'est quand la Torah a été traduite en grec. Et donc, dans la Gemara, on rappelle qu'en ce temps-là, il y avait un jour de jeûne, le 8 Tébet, jour de jeûne qui n'est plus visité. Le 8 Tébet, 8 à cause des 8 jours de Hanouka, je suppose. Non, mais c'était le jour de la publication de la traduction grecque de la Bible, qui s'appelle la version des Septante. Et je me souviens que il y a comme ça des commémorations qui ensuite, avec le temps, s'oublient. Je vous donne un exemple. Lorsque les Français ont donné la citoyenneté française aux Juifs algériens, les rabbins algériens ont décrété un jour de jeûne. Mais ce jeûne a été pratiqué pendant quelques générations, et ensuite les Algériens sont devenus des Français, alors on a oublié ce jour de jeûne. Et je me souviens très bien de la motivation. C'était pas tellement parce qu'on voulait pas être français, mais c'était parce qu'il fallait aller à l'armée. C'est le même problème que les barbouriers, yeux. Mais qu'il fallait aller à l'armée, et que c'était la porte à la dénaturation d'identité. À partir du moment où la première génération de Juifs algériens sont allés à l'armée, alors ont commencé les Juifs qui mangeaient plus cachère, les juifs qui ouvraient le Shabbat, les juifs qui se mariaient avec des goyim, et ça commençait par là. Alors les rabbins avaient diagnostiqué ça à l'avance, et il ne reste pas moyen que les Algériens, les juifs algériens sont devenus français, et tout le reste, y compris. Alors ce jeune est tombé en désuétude. Je me rappelle encore enfant quand on parlait de ça. Au Pirchou Chazal, et nos maîtres ont expliqué d'Achosher que cette obscurité, Asher Atirgumazé Ori Laolam, que cette traduction a fait descendre dans le monde, Bam Ipene Asher Alide Atirgum, vient de ce que, par cette traduction, Nitkayem Achizayon, s'est réalisé cette prétention qui a Atidi Mumota Olam Lomar à nous Israël, que les peuples du monde finiraient par dire c'est nous Israël. C'est en s'appuyant sur la Bible traduite. Veillez-nous qui chouchouchet Agumze, la racine de cette traduction, Aïta Megama, Tachtesh, était l'intention d'annuler et à Avdallah ben Israël Amim, la différence entre Israël et les peuples. L'idée est claire. Jusque-là, la grande différence entre Israël et les nations, disons, c'est la Torah. Mais voilà que les nations se réclament de la Torah, la Bible, qu'ils appellent ça. Okay. Vous voyez à quel point c'était important comme événement. Que le Medim Anouika, nous apprenons de là, qui, Haouma Miyochedet le Tishtouchze Hayayavan, la nation particulière de cette annulation qui a voulu, cette annulation entre Israël et les nations, était la Grèce, Kelomra, c'est-à-dire que le vis-à-vis d'Israël, Zeler Umadze, Beyesod Avdallah ben Israël Amim et Malchut Yavan. Dans le principe de la différence entre Israël et les nations, c'est Yavan. Je veux dire que dans ce problème qui est exprimé par cette expression Israël d'un côté et les nations de l'autre, le visage des nations qui luttent contre Israël sur ce problème, c'est précisément Yavan. C'est bien clair jusque-là. Alors je crois que ça, c'est le niveau de Hanouka dans le premier sens. Cela, on l'a échappé. C'est-à-dire la nation d'Israël a survécu à ce danger. Mais à l'échelle individuelle, au niveau des Moumarim, la blessure reste ouverte. C'est l'essentiel du sujet. Alors je reprends là. Parce que je vois que l'heure avance. Bon, je crois qu'on peut arrêter la traduction qu'elle avait dit. Oui, il est déjà 9h. Eh bien, vous avez la parole si vous avez des questions là-dessus. Je crois qu'une des choses les plus intéressantes qui a été indiquée par cet enseignement, c'est la différence entre la lutte contre les Grecs et la lutte contre les Mitiavnim. Peut-être que si ce sujet demanderait à être...
ne se contente pas de citer la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom HaSeh. On ajoute deux données, la différence qu'il y a entre l'obscurité et la lumière, et la différence qu'il y a entre les peuples et Israël. Est-ce que ça peut se rattacher ?
Et évidemment, oui, et très, très directement. Mais... je dirais peut-être qu'il faudrait un peu nuancer, d'après même ce que nous venons d'apprendre là. La nuit a sa propre lumière. C'est la différence, c'est par rapport à la lumière du jour. Je me réfère en tout cas à ce que dit la Torah très directement, que le soleil c'est pour éclairer le jour et la lune c'est pour éclairer la nuit. Ça veut dire que même l'obscurité a sa propre... c'est relatif. Mais qu'il y a effectivement une Abdallah. Alors c'est cette Abdallah qui était en jeu dans la lutte des Maccabées contre les Grecs.
Est-ce que... qu'il y a une analyse en train de constituer cette zone de phénomène. En Israël, dans l'ensemble du Moussard, on a des preuves historiques. Les preuves historiques ont très rapidement disparu à Jérusalem dans les 20 ou 30 ans qui ont suivi, alors qu'au contraire, c'est renforcé après.
Oui, je veux dire, les mitternim physiques ont disparu, mais pas leur position. Leur position était de faire une distinction entre les deux dimensions de l'identité Israël par la nation et par la Torah. Et une fois cette distinction faite, cette séparation faite, par la nation, ils étaient une des provinces de la culture grecque. Et puis, la Torah, ils l'ont gardée comme religion. Mais cette religion de la Torah qu'ils ont gardée est devenue le sadducéisme, d'ailleurs, et c'est dénaturé. Et donc, ils ont disparu physiquement, mais le résultat de cela a été Alexandre. Tu veux dire que, je voudrais bien formuler ma réponse, enfin, la réponse à ta question, c'est que, si les mitternim ont disparu d'Eretz Israël, c'est parce que la Judée a disparu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et si la Judée n'avait pas disparu, eh bien nous aurions... les Sadducéens ont disparu parce que la Judée a disparu. Et je crois que ce problème se renouvelle de notre temps. C'est-à-dire le grave danger pour l'identité Israël contemporaine, que ce soit Houtlaret ou en Israël même, c'est la séparation entre ces deux dimensions de la définition de l'identité Israël, à la fois, mêmement, je crois que ce mot n'existe pas en français, mais il existe en italien, mêmement, c'est un très joli mot, en même temps. D'où je sais l'italien, je ne sais pas. Non, mais ça me vient du latin. Israël par la nation et Israël par la Torah. Alors lorsqu'on sépare cela, eh bien, il y a Moumar. C'est ce que étaient les mitternim au niveau nation. Au niveau nation, judéen, ça voulait dire une des provinces de la Grèce. Et alors, leur religion, leur fidélité à la Torah, c'était la religion sadducéenne. Elle s'est dénaturée, c'est plus le judaïsme. Très rapidement. C'est ça ce qui est arrivé avec Alexandrie. À mon sens, le fait d'amener Alexandrie doit être épinglé aussi à un autre niveau, c'est le phénomène Alexandrie qui a nourri le christianisme. C'est certain.
Attends, je voudrais bien comprendre au moment où l'histoire de Chanukka, il y a eu une marque locale dans ce qu'on appelle les chassidim qui ont dit, puisqu'on nous propose en fait le libre exercice de la Torah, qui va arrêter la lutte contre les Syriens et puis ceux qui autour des Rachonel,
ils ont
voulu continuer la lutte. Et c'est là le début, en fait, entre le pouvoir sadducéen qui vient des Chassidim et le pouvoir
sadducéen
qui vient des.
Eh bien, tu sais, ça, c'était pour moi un mystère, et même encore. Moi, j'ai étudié ces choses-là au Talmud Torah, on a appris ça en juif, pas en historien. Je veux dire, du point de vue de la mémoire traditionnelle, et nous avons appris l'inverse.
Et c'est justement, c'est
ça, oui, absolument. Ça, c'était pour moi un mystère quand, chaque fois que j'ai entendu les historiens parler de ça. Et je crois que c'est la première fois que j'ai entendu un universitaire dire les choses à l'endroit, c'était missionnaire à ce sujet. Okay. C'est les pharisiens, c'est ceux qui sont restés fidèles au fait d'être juifs par la nation. Alors la religion est cachère. Alors que les sadducéens, c'était l'inverse. Et les Maccabées, c'est un mouvement pharisien, c'est pas un mouvement sadducéen. Non, quand tu dis les Hassidim, c'est ce que les historiens appellent les Hassidéens. on ne connaît pas cette chose-là dans la mémoire traditionnelle. Les Hassidim, c'était des pharisiens plus pieux. Et ce n'était pas du tout ces gens-là auxquels on impute la position des sadducéens. Il y a une falsification. Non. C'est plus tard. C'est les descendants des Maccabim qui deviennent sadducéens, alors les pharisiens les excluent. Et c'est pourquoi Hanouka est expulsé du Talmud à ce moment-là, plusieurs générations plus tard. Le Talmud, c'est les pharisiens. Et le Talmud n'aime pas les descendants des Maccabées à cause de ça, parce qu'ils ont violé deux principes de la Torah. D'une part, la théocratie. Ils ont instauré une royauté de prêtres, et c'est interdit par la Torah. C'est permis, Bishrat HaTrak, la révolte des Maccabées, bien que ce soit des prêtres, ils avaient le droit de prendre le pouvoir royal, mais le rendre dès la victoire, dès qu'il y a la paix, ils devaient le rendre au pouvoir civil, politique. Alors ils l'ont gardé, et ils sont devenus sadducéens. Et la deuxième chose, la deuxième règle à Torah qu'ils ont violée, c'est qu'ils ont converti de force des populations entières en groupe. Ils ont converti les Iduméens, et c'est des Iduméens qui sont sortis du christianisme, des Iduméens convertis au judaïsme. Et je crois que le problème est très très grave aujourd'hui. D'ailleurs, j'attends avec impatience la soirée que nous aurons sur Miou Yehudi au mois de janvier. On va faire venir un spécialiste de cela. Mais je voudrais vous dire déjà un peu, par rapport à ta question, un peu comment je perçois la gravité du problème. C'est que aujourd'hui, l'orthodoxie juive a pris le courant sadducéen. Et alors, il y a un bilboule de positions qui est extrêmement néfaste. Il y a encore un seul parti religieux qui a des chances de rester cachère, c'est le Mavdal, parce qu'il est national. Et il est orthodoxe, le Mavdal. Okay. Je vous dirai un secret, vous enverrez ça de la cassette. Aux dernières élections, je n'ai pas voté pour le Mavdal. C'est un secret public. Tout simplement parce que c'est un parti où il n'y a que des religieux. S'il y avait un Mavdal avec des chilonim, peut-être j'aurais voté Mavdal. Alors j'ai voté pour un parti où il y a et des religieux et des chilonim. Ça aussi, ce n'est pas un secret. Okay. Hein? Oui. Je crois que c'est là qu'est le danger. À partir du moment où une orthodoxie se définit uniquement par la religion, elle est déjà sadducéenne. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Absolument pas. Du point de vue de son option politique existentielle, il est à gauche. Mais du point de vue de sa conception, de la Torah, c'est le dégueu la Torah en plein. C'est l'idéologue de dégueu la Torah. C'est évident. C'est-à-dire que au niveau idéologique religieuse, pour lui, un juif qui ne pratique pas le Shulchan Aruch, c'est plus un juif. Or, la halakha est contre cela. La vraie halakha est contre cela. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et j'ai eu l'occasion de connaître Lebovitch dans la vie privée, parce qu'un de mes gendres a été un de ses élèves pendant des années. Alors, je dois vous dire que dans la vie privée, il a l'air bon. Il est gentil comme c'est pas possible. Dans la vie privée. Mais en public, c'est une catastrophe. Et mais je crois que c'est ça les orthodoxes. En public, c'est des catastrophes. Ils manquent de déréférence. Alors que dans la vie privée, ça a l'air de juges normaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et voilà, là, il y a un problème grave. Alors, j'étais interrogé par un journaliste français sur le problème de Miou Yehudi, et ça m'a obligé à mettre au point ces choses-là en clair. Il y a une double inconséquence. D'abord, du côté de Guillou réformé. Lorsque la religion réformée a été fondée sur la séparation absolue entre la religion et l'identité d'Israël. Au point que dans leur premier livre de prière, tout ce qui avait d'allusion à Eretz Israël était expurgé. C'est depuis la guerre de Séjour qu'il s'est produit ce miracle que les réformés et les conservateurs, qui étaient en marge, sont devenus pro-israéliens. Mais jusque-là, pour eux, c'était l'abomination de la désolation, les signes d'être américains, britanniques, germaniques, ce que vous voulez. En plus, bon, pas seulement ça. Bon. Alors, il faut dire qu'à partir de la guerre des Séjours, tout a changé. Et c'est pourquoi tout ce problème de Miou Yehudi à la Knesset est basé sur toute une série d'incompréhensions. Il faudra du temps avant que le langage arrive à se recoder. Et inversement, les orthodoxes qui réclament à juste titre du point de vue de la halakha, c'est pas un problème réforme orthodoxe, c'est un problème vérité et mensonge. Un juste, un juif, un non-juif, c'est un non-juif. Eux ne participent pas du tout à la halakha sioniste. Or, il s'agit d'une loi de l'État d'Israël. Est-ce que vous comprenez le double? Il y a une double imposture là derrière. Ce qui fait que le seul parti qui aurait le droit de demander cela, mais l'occurrence politique sans boucher, ce serait le Mavdal. C'est le seul parti qui aurait le droit de demander ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est un problème extrêmement grave. Alors que ça concerne une dizaine, une quinzaine de gens par an, qui fait ça à l'IA des guillourimes de réforme. Et qu'on peut régler à l'échelle individuelle de façon très claire. Il suffit d'inventer un tribunal rabbinique commun entre tous les rabbins de quelque genre qu'ils soient. Mais je ne sais pas si on va arriver très vite à un point où un rabbin orthodoxe ne sera pas forcément plus sioniste qu'un rabbin réformé. Et le fait qu'il soit citoyen Bnei Brak, ça ne change rien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce qui fait qu'on est vraiment dans le problème que le paradis sera comme dire cette distinction entre le niveau national et le niveau, je ne sais pas comment dire, religieux, est extrêmement catastrophique. Extrêmement catastrophique. Or, elle est la plus grave chez les orthodoxes. Et ça me gêne de dire orthodoxe, parce qu'étymologiquement, ça veut dire autre chose. Mais disons, chez les orthodoxes, en tant que orthodoxe, ça veut dire anti-sioniste. Okay? Parce que ils sont en train d'inventer une autre identité juive qui n'est plus celle du clan Israël et qui est de type Babel. Et bien parce que qu'est-ce que c'est Babel? Babel, c'est Jérusalem de l'étranger. Ouais. C'est Jérusalem, mais à l'étranger. Surtout pas Médinat Israël. C'est ça Babel. Mais c'est Jérusalem. Et la Kedusha de Babel a toujours été considérée par la Halakha comme moins que la Kedusha d'Eretz Israël, mais de même ordre. Babel, c'est un juif en suspens, mais c'est un juif. Tandis qu'Alexandrie, c'est un pré-chrétien. Et vous voyez, nous sommes vraiment un peuple où on ne peut pas s'ennuyer. Non, pas du tout. C'est pas le Talmud de Babel. Ah, je vais vous dire une chose. Le Talmud de Babel, c'est le commentaire des écoles babyloniennes sur la Mishnah d'Eretz Israël. Et sans la Mishnah d'Eretz Israël, il n'y a aucun Talmud. Okay. Dans l'exil, on a appris le Talmud de Babel, qui est beaucoup plus facile que le Talmud de Jérusalem, parce que le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus condensé, beaucoup plus, succinct. Et dans le phrasé, okay. Et la grande différence entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babel, ça peut-être une fois on consacrera des études à ça, c'est que dans le Talmud de Babel, l'essentiel c'est la Haggadah. Alors dans le Talmud de... C'est à l'inverse. Dans le Talmud de Jérusalem, l'essentiel c'est la Haggadah. Alors dans le Talmud de Babel, l'essentiel c'est la Halakha. Au point que la Haggadah est devenue hermétique dans le Talmud de Babel. Dans une yeshiva de type Babel, quand on arrive dans un sujet où on a besoin de l'Agada pour comprendre de quoi on parle à l'Agada, on passe. Déjà, c'est Agada, on passe. Mais d'aller à l'Agada, et on passe, et ça veut dire qu'on ne comprend pas. On peut comprendre l'Agada comme un récit Israël. C'est un grand enseignement du Rav. Parce que l'Agada est de l'ordre d'un Évoa. Et il faut être Israël pour comprendre de quoi il s'agit. Il y en a déjà quelques-unes chez les sionistes. Non, je ne dis pas de vrai. Mais ça viendra. Et je veux dire, du point de vue de l'étude, lorsqu'on est formé au Talmud de Jérusalem, la mentalité est différente que lorsqu'on est formé au Talmud de Babel. C'est évident. Je vous ai cité cette semaine l'exemple de Rabbi Zera, lorsqu'il a fait sa halia. Il a jeûné 40 jours en priant pour oublier tout ce qu'il avait appris à Babel il cite un verset de Isaïe, « Vemahashachim, un peuple qui était dans un tunnel obscur, a vu au bout la lumière. Miksa Minhara. » Et on raconte de lui d'ailleurs que pendant son jeûne, il faisait des exercices pour essayer de voir s'il pouvait supporter d'avoir le pied dans les braises. On lui a demandé pourquoi. Il dit, si jamais je vais en enfer. Il se préparait. Il avait peur d'aller en enfer quand il a vu la différence entre Babel et Jérusalem. Bien. Eh bien voilà, je crois que on est arrivé au bout du sujet. Le véritable enjeu de Hanouka n'est pas achevé. Il y a eu une victoire à l'échelle globale au niveau de la nation d'Israël est sauvée des Grecs, mais à l'échelle individuelle, la lutte contre les Mitnayavnim, elle n'est pas finie. Et ce soir, on a abordé un paradoxe énorme. Les Mitnayavnim, c'est finalement pas seulement ceux qui introduisent la mentalité grecque dans les études juives, c'est finalement les orthodoxes eux-mêmes qui risquent de déclencher ce qu'ils sont en train de déclencher. Si nous entendez parler. Bien. Alors, s'il y a Minyan, on fera arbitre. S'il n'y a pas Minyan, soyez mignon. Et on se retrouve la semaine prochaine.